Salut à tous et bienvenue pour ce Furia Liga podcast. Au programme de la semaine, un bilan de la 24e journée de Liga et en deuxième partie, un focus particulier sur l'évolution du Barça à la sauce Quique Setién après la victoire de ce week-end contre Getafe au Camp Nou. Et pour m'accompagner, Tracy Rodrigo est avec nous. Salut Tracy.
Salut.
Comment tu vas ?
Très bien, et toi ?
Parfait, parfait. Écoute, on va parler football espagnol, donc forcément,
oui. C'est bon, forcément, ça va. Tout va bien.
Très bien. Et à, la réalisation, je te présente un petit nouveau. C'est un immense plaisir d'annoncer l'arrivée du basque bondissant Thomas Galarrag dans l'équipe de Furia. C'est une vieille connaissance. Je suis vraiment très, très, très heureux qu'il nous rejoigne cette magnifique aventure. 9 matchs se sont disputés cette semaine. Eibar Real Sociedad a été reporté en raison d'un incendie qui a annulé le derby de Guipuscoa. Et on a attaqué vendredi soir avec un choc à Mestalla. Valencia, Atlético de Madrid, de partout, un partidazo avec une démonstration de Ferran Torres. Tu sais, Tracy, que j'adore le petit Ferran. Et il a aspiré l'âme de Saúl Ñíguez en deuxième période. Il lui a fait très, très mal. Et si Maxi Gomez et Kevin Gamero avaient eu un peu plus de réussite, un peu plus de tranchant devant les cages, Valencia aurait pu l'emporter. Et c'était un match particulier parce que les deux équipes vont se retrouver en huitième de finale de Ligue des Champions. J'ai envie de dire, c'était deux équipes un petit peu fatiguées, un petit peu, on connaît pas vraiment le diagnostic.
Je sais que tu aimes beaucoup Ferran Torres, moi aussi, encore plus à l'époque où il était à deux doigts de rejoindre le Barça. C'était il y a 3 ans, tu t'en souviens?
Oui, mais je sais très bien, mais en fait, on va pas lancer la polémique tout de suite, mais là, vous avez le meilleur centre de formation quand vous prenez les joueurs ailleurs, donc ça c'est la jurisprudence Abel Ruiz, tu vois.
Tu l'aimais bien Abel Ruiz avant, mais bon, on va pas revenir là-dessus, j'ai des preuves.
Je dirais rien alors, ouais. Mais c'est vrai qu'on se pose la question de savoir où vont les deux équipes, parce que Valence va jouer sans sa charnière titulaire, avec Garay qui est blessé longue durée, et Gabriel Paulista qui a marqué.
Moins grave que prévu quand même.
Vendredi soir, qui s'est blessé en plus, qu'il y en a pour. Alors, normalement, c'est pour un mois. Alors, lui, il espère revenir d'ici quelques jours, d'ici une dizaine de jours, pour le match contre le Betis. Mais la charnière, quoi qu'il arrive, il ne sera pas dedans. Le futur espagnol, peut-être le futur international espagnol.
Tout à fait.
Jacabi Mangala. Mangala qui a été titularisé, qui a été un petit peu coupable sur le deuxième but de Thomas Partey, même si. Dani Parejo a perdu la balle. D'ailleurs, Dani Parejo, on sent qu'il tire la langue. C'est compliqué pour lui.
C'est pas le seul à Valence. On a quand même l'impression d'un effectif réduit, ou plutôt de Celades qui sait pas trop comment faire pour opposer ses cadres.
Bah, c'est un peu une mi-temps bonne, une mi-temps moyenne, et du coup ça pose effectivement quelques problèmes, notamment le problème d'alignement. Sur le premier but de Marcos Llorente. Et d'ailleurs, prendre un but de Llorente, ça pouvait arriver qu'à Valencia, évidemment, parce que vraiment, pour qu'il marque, il en faut. Mais c'est vrai que ces deux équipes, avec beaucoup de blessés, il manquait notamment João Félix et Diego Costa du côté de l'Atlético, et puis Morata est rentré en fin de match, il a failli marquer. Jaume Domenech a sorti une magnifique parade pour détourner sa tête. Mais c'est vrai que on ne sait pas trop si les équipes ont pris un point ou si elles en ont perdu deux au final.
Vu le rythme de Getafe, même si Getafe a perdu ce week-end, on a quand même l'impression que ça tire un peu la langue du côté de Valence et de l'Atlético. On se demande s'ils vont quand même réussir à suivre le rythme de Getafe, même si Getafe a aussi l'Europa League. Ne l'oublions pas, contre l'Ajax cette semaine. Mais on a l'impression d'un Getafe quand même un peu plus armé. En tout cas, pour l'instant.
D'ailleurs, là, Getafe, c'est la, comment dire ? Je veux dire, c'est la grosse fiesta à Madrid, parce que maintenant, Bordalas devient un entraîneur reconnu, et même Getafe serait une très bonne chose pour le championnat espagnol.
Alors qu'on le reconnaît depuis longtemps à Furia Liga.
Oui, c'est-à-dire que Benjamin Bruchet, que je salue, et moi-même sommes deux adorateurs de Bordalas. C'est marrant, parce qu'on aime beaucoup Setién, on aime beaucoup Bordalas. C'est très spécial. Mais là, justement,
ils ne se sont pas salués ce week-end.
Oui, parce que ça avait chauffé l'année dernière, il me semble, entre les deux.
Même plus vieux que ça.
Oui. C'est une
grande histoire d'amour.
Oui, une sorte d'inimitié partagée. Dans le haut du tableau, On parlera tout à l'heure de Barça Getafe dans le focus, mais dans le haut du tableau, il y a une autre équipe qui a perdu des points, c'est Séville, et c'est un peu plus, on va dire, c'est un peu plus grave qu'un match comme Valence Atlético. C'est contre l'Espagnol qui est dernier, qui est lanterne rouge, et malgré un très grand match de Sousse, l'ancien de l'AC Milan, qui était passeur et buteur pour les Palanganes. Mais alors, la passe qu'il offre au Campos, l'ancien Marseillais, il lui a mis une galette sur la tête. Le mouvement est parfait. Banega qui décale à droite. Il revient sur son pied. Quelle passe il lui adresse. Mais,
c'est parfait dans l'action.
Ouais, mais ça n'a pas suffi, parce que non seulement ils ont égalisé sur un coup franc d'Embarba. Alors là aussi, il va y avoir une petite polémique avec la VAR. Est-ce qu'il fallait que ce soit révisé par la VAR ou pas? Parce que ça pouvait être un pénalty vu de loin. Et puis en fait, ça a été ramené en coup franc. Et Embarba, qui arrive du Rayo, a frappé sous le mur et il a égalisé. Puis Woulaye a mis le 2-1. Et Sousso a finalement sauvé la boutique, parce que s'il avait perdu contre les derniers, ça aurait pas été terrible pour l'équipe de Lopetegui. Mais c'est vrai que ça galère en haut de tableau au final.
Ça galère, mais ça devient quand même assez compliqué depuis l'arrivée d'Abelardo de jouer l'Espagnol finalement.
C'est un spécialiste des missions sauvetage, Abelardo.
Parce que finalement, l'Espagnol a un très bel effectif. Leur classement, on ne le comprend pas. Enfin, on ne le comprend pas. Ça a beaucoup bougé au club. Ça a changé d'entraîneur 3 fois cette saison. Mais finalement, je ne pense pas que Séville soit la seule équipe qui va souffrir face à l'Espagnol. Mais après Séville, on a l'impression de quelque chose qui se reproduit tous les ans. Tous les ans, ça commence, on a l'impression que ça commence fort. Et puis, il y a un moment où ça ne marche plus. Je ne pense pas que Lopetegui soit vraiment responsable de ce qui se passe, même si il risque de prendre sérieusement. Mais c'est compliqué, Séville. C'est chaque année, on en parle. Et j'ai l'impression que chaque année, on dit la même chose. C'est cette équipe qui n'arrive pas à passer le cap supérieur.
Et c'est marrant, c'était une grande qualité de Unai Emery. Il avait fait avec Valence, il a fait ensuite avec Séville, d'arriver à accrocher les 4 premières places de façon extrêmement régulière. Et c'est beaucoup plus difficile depuis qu'il est parti. C'est vrai qu'on a l'impression que ça se reproduit. Après, bon, tout le monde connaît, enfin tout le monde. C'est comme si, pas me donner plus d'importance, mais je suis pas un grand fan de Banega. Et Banega, c'est vrai qu'il a tendance aussi à avoir des bonnes stats, mais quelquefois aussi à baisser de pied. Et ça, c'est gênant, parce que c'est vraiment leur playmaker c'est le joueur le plus influent de l'équipe. Et puis, c'est vrai que quand on prend l'équipe qu'ils ont, c'est extrêmement qualitatif. Ils ont Reguilón côté gauche, ils ont Navas qui paraît toujours de plus en plus jeune à droite, ils ont Diego Carlos qui fait une magnifique première saison. Voilà, et puis,
extraordinaire, Diego Carlos. Oui, et puis, il est là, on a envie de dire.
Et puis, voilà, sur le banc, tu as quand même du Nolito, tu as du De Jong, tu as du Mounir. Là, maintenant, ils ont En-Nesyri. Alors, En-Nesyri aussi, quand je me rappelle, j'ai tendance un petit peu à le critiquer quand il était à Malaga. Si on m'avait dit qu'un jour, il jouerait à Séville titulaire, je ne l'aurais pas cru tout de suite. Mais c'est vrai qu'à Leganés, il a été magnifique. Donc, il est très justement récompensé. Mais devant, c'est vrai que Séville, c'est quand même une très bonne équipe. Et au Campos, que je suivais beaucoup à l'Olympique de Marseille, qui était un bon joueur, mais sans être, on va dire, sans être un vrai foudre de guerre, bah là, il est en train de complètement se révéler en Liga. Il a encore un but, encore une passe. C'est très, très belle saison pour lui. Mais effectivement, en face, il y a Abelardo, qui est un spécialiste des missions sauvetage. Puis en plus, ils ont fait un très bon recrutement à l'intersaison. Cette fois, il n'y a pas Raoul Thomas, mais bon, on sait que voilà, il marque. Et bon, moi, je trouve que ça sera toujours meilleur que Caleri. Enfin, moi, je ne suis pas un grand, grand fan de Caleri, mais bon, il y a Woulaye, il y a Darder quand même, il y a Embarba qui vient d'arriver.
Il y a un excellent effectif à l'Espagnol.
Exactement. Puis il y a Cabrera qui vient d'arriver aussi, c'est pas rien. Ils ont Calero. C'est vrai que. Bon, après, il y a Roca, Melendo, tout ça. Donc, c'est vrai que c'est surprenant qu'il soit dernier. Bon, on parlera un peu de la mission maintien en fin de journée après ce récapitulatif. Parce que dans le haut de tableau, il y a aussi le Real Madrid qui a été accroché à Santiago Bernabéu contre le Celta avec le but de l'immense Santi Mina qui est sorti de sa boîte, le spécialiste des buts contre les gros. Hein. À Valence aussi, il a mis des buts contre le Barça et tout ça. Non, c'est un très, très grand spécialiste. Alors après, Iago Aspas a mis une petite couche, par exemple, sur un carton rouge qui aurait pu être adressé à Gareth Bale, si je ne me trompe pas.
J'aurais dû.
C'est compliqué, il a raison, c'est compliqué. Non, mais c'est compliqué de siffler dans les grands clubs. C'est compliqué, le Real Madrid le sait, le Barça le sait. Après, ça dépend des matchs, mais ça arrive à l'Atlético, ça arrive à Valence, ça arrive à tous les gros. Et effectivement, le Celta, voilà, aurait pu avoir un peu plus de largesse de la part de l'arbitre.
Mais c'est quand Oscar même... Garcia qui rend un immense service au Barça.
C'est ça. C'est ça, et un retour des choses, on a envie de dire, a posteriori. Mais c'est vrai. Est-ce que toi, tu t'attendais à un match nul Moi, je pensais franchement que le Real allait gagner sans trop forcer son talent. Et puis,
je m'attendais pas vraiment à un score fleuve du Real pour la bonne raison que le Celta. Pourtant, j'ai regardé les résultats et c'est pas vraiment la réalité, mais j'ai quand même toujours cette impression que face au gros, le Celta arrive toujours à sortir quelque chose. Et finalement, le Real, même si les résultats sont là depuis quelques temps, Zidane s'est beaucoup trompé dans ses compos de départ, qu'il a souvent dû modifier ça à la mi-temps. Je me disais que le Celta allait réussir à résister, de là à obtenir un match nul, non. En plus, Hazard était de retour. Mais en plus, Oscar Garcia a du mal, hein, enfin, a du mal depuis son arrivée. On ne va pas dire que c'est un échec, hein, pas du tout. Il y a quand même du mieux au Celta. Mais c'est vrai qu'on ne s'attendait pas à ça, et d'un Celta qui est encore un petit peu malade. Mais quand Iago Aspas est dans cette forme-là, tout est plus facile.
Ah ben, Iago Aspas,
avec un grand Rafinha aussi, un grand Rafinha aussi.
Oui, d'ailleurs, il a été félicité par son frère, Thiago, sur les réseaux sociaux.
Tout à fait.
Voilà. Donc, oui, c'est vrai que ça lui fait du bien de jouer à Rafinha. Mais c'est vrai que là aussi, il y a un bon effectif au Celta, mais
oui, on s'attendait aussi à une bonne saison du Celta. C'est un petit peu comme l'Espagnol, on attendait à ce que ça soit bien plus haut dans le classement en début de saison.
Effectivement, d'ailleurs, c'est vrai qu'il y a de quoi faire. Et puis bon, le Real, c'est étrange là devant. Voilà, bah, Hazard est de retour, donc évidemment, ça retire une place à Isco. Maintenant, Modric aussi est entre deux. Gareth Bale a joué, donc ça peut retirer aussi une place à Vinicius. C'est compliqué. Lui, il y en a qui ont l'embarras du choix. Lui, il a le choix de l'embarras. J'ai l'impression, Zidane, il ne sait jamais trop sur quel pied danser. Mais bon, en attendant, ils sont toujours un petit point d'avance en tête du classement du championnat.
À deux semaines du Classico.
Exactement, qui sera le 1er mars, si je ne me trompe
tout
pas.
Tout à fait.
On descend un petit peu plus avec la lutte pour les places européennes. Villarreal a fait un gros coup en remportant un des derbys de la communauté valencienne contre Levante. Et Levante est déjà... ils sont sauvés quasiment, donc fatalement, c'est que du bonus. J'ai l'impression que...
Levante, ils sont déjà à la fin de saison.
Ouais, c'est toujours un peu... On parlait de Séville qui vivait un peu toujours les mêmes saisons. Je pense que c'est un peu toujours pareil aussi pour Levante. Et ils se sortent. En plus, Paco Lopez a été, il n'y a pas très longtemps, prolongé pour plusieurs saisons. Donc, ils sont bien, Levante, et leur objectif, voilà, ils savent où ils vont. C'est un club qui marche plutôt pas mal. En plus, là, ils ont recruté, si je ne me trompe pas, Kabako, je crois. Non, Kabako est parti au Reta, et je ne sais plus qui ils ont pris. J'ai un trou de mémoire terrible. Mais bon, contre Villarreal, Villarreal a des choses à jouer. Et puis quand même, en termes qualitatifs, Villarreal est quand même au-dessus. Même si je pense que en termes
d'entrée... Même si on ne s'attendait pas à ce qu'ils soient aussi haut, Villarreal. Pour le coup, quand on dit que le Celta et l'Espagnol, on les attendait plus haut, Villarreal, on les attendait quand même pas à ce niveau-là.
Peut-être, mais quand même, c'est une équipe qui...
Après, il y a des joueurs extrêmement... Quand on a un Cazorla, quand on a Trigoros qui revient bien...
Oui. Mais c'est vrai qu'en termes d'entraîneur...
Surtout par rapport à l'entraîneur.
Je suis plus fan d'un Paco Lopez que d'un Calier. Mais c'est vrai que là, en plus, je pense qu'ils ont eu tout bon en vendant Toko Ekambi pour récupérer Alcacer. Parce qu'Alcacer a vraiment les moyens de bien combiner avec Gerard Moreno. Et...
Oui.
Gerard Moreno, il va pas être très très loin de l'Euro cette année. Hein,
est-ce que ça t'avait de la peine pour Paco Alcacer?
Non, parce que je ne m'attends à rien avec lui.
Ah, très bien.
Alors, on avait avec Marine Bardouin, on avait publié un petit papier croisé sur Paco Alcacer au moment où il était annoncé potentiellement à Valence en cas de départ de Rodrigo Moreno. Et puis finalement, voilà, il est parti à Villarreal. Si tu es pour Valence, tu peux le prendre comme une nouvelle trahison. Si tu réfléchis en termes de sportif et de son intérêt à lui, c'est un excellent choix qu'il a fait. Là, en plus, cette année, Moy Gomez est vraiment pas mal. Voilà, puis bon, sur le banc, tu vois qui est rentré sur, pour ce match-là, Zambo Anguissa qui se révèle complètement en Liga.
Incroyable, Zambo Anguissa.
Ouais. Chukwueze, Pao Torres aussi, qui vient d'un international espagnol. Voilà, sur le banc, il te reste du Baca, du Ontiveros. Bon, voilà, c'est vraiment... si, chaque fois, je me dis que s'ils avaient un entraîneur... je ne suis pas un gros, gros fan de Cagliari, hein, mais donc, s'ils avaient un entraîneur un peu plus... comment dire, qui osait un peu plus, peut-être que ça jouerait les places champions. Et encore, ils ne vont peut-être pas être très, très loin du compte. Finalement, parce que si tout le monde
ils sont pas très très loin, hein. ils sont à 4 points de Rétafé. Hein.
Exactement, si tout le monde stagne, effectivement, eux, ils vont pouvoir récupérer des points de retard.
C'est très serré devant, même jusqu'à la Real Sociedad, hein, qui est 8e, c'est serré jusque-là. Il n'y a pas beaucoup de points, il y a 5 points entre Rétafé et la Real.
Ça va être un très bon match contre Eibar à Ipulua, hein, parce que Eibar a besoin de points dans la lutte pour le maintien et la Real Sociedad a besoin de points pour aller jouer l'Europe, à moins qu'il gagne la Copa, et c'est pas impossible. Hein. On pourrait avoir un petit Euskal Derbi en finale, ça serait pas mal. Alors, en milieu de tableau, Granada a réalisé une bonne affaire au buzzer grâce à un but de Carlos Fernandez contre Valladolid, l'équipe d'Athlem Ben Arfa qui n'était pas sur la feuille. D'ailleurs, l'échauffement d'Athlem Ben Arfa quand il est rentré la semaine dernière pour ses premières minutes en Liga, c'est pas très 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 bien passé en Espagne. Donc, parce qu'il y a eu beaucoup de promotions autour, enfin beaucoup de promotions. On a pas mal parlé de Ben Arfa parce que Ben Arfa, évidemment, il est pétri de talent. Le problème, c'est que sa carrière n'est pas en adéquation avec le talent qu'il avait initialement. Donc, fatalement, c'est quand même une très bonne nouvelle pour Valladolid d'avoir un joueur comme ça. Avec le jeu que propose Valladolid, j'en suis quand même moins convaincu. C'est très bizarre.
L'association est très étrange sur le papier, en tout cas.
Puis 6 mois sans jouer, il aurait au moins pu faire semblant, quoi. Donc, voilà. Mais en tout cas, Granada a fait la bonne opération. Et les Natal, ici, ils en profitent pour devancer l'Athletic. Athletic, ils connaissent bien, puisqu'ils ont perdu en coupe à San Mamés en demi-finale aller de Copa, qu'ils vont retrouver à Nuevo Cármenes pour le match retour. Et est-ce que ça pourrait le faire pour Granada en coupe? C'est pas impossible parce que l'Athletic a perdu à San Mamés contre l'Osasuna qui remonte à la 11e place. Osasuna orphelin du grand Chimi Ávila et qui va se maintenir tranquillement, un peu à la Levante, quoi.
Oui. Pourtant, on s'attendait à ce qu'il souffre un peu plus de cette perte, Osasuna. Personnellement, je ne m'attendais pas à une victoire d'Osasuna ce week-end. Mais ils avaient fait un bon match contre le Real Madrid aussi le week-end dernier. Finalement, ils arrivent à bien gérer cette absence.
Oui, ils avaient perdu au Sadar. Et bon, là aussi, il y a eu quelques petites histoires avec Sergio Ramos. Oui. Notamment, le plus grand style... Sergio Ramos, que j'ai envie de dire, mais oui, Osasuna, c'est une belle équipe, hein. C'est vraiment, Iago Barralassate fait du très très bon travail, et puis pour ceux qui ont la chance d'aller voir un match vraiment dans le coin, aller à Pamplune voir un match au Sadar, et surtout le petit bar qu'il y a à côté. Voilà, moi j'ai fait un match à midi contre le Celta, un match horrible, qui a fait 0-0, mais
c'est tout ce que tu as retenu.
Bah écoute, c'est la première fois que je rentrais dans un bar qui avait de la sueur par terre, donc à 11h du matin. Donc si tu veux, ça m'a un petit peu marqué comme lieu. Puis il faisait assez froid aussi, je me rappelle. Voilà. Bref, trêve d'anecdotes personnelles. Pour finir, bas de tableau, les quatre derniers ont pris des points, c'est à noter. L'Espagnol et le Celta, on en a parlé tout à l'heure, mais il y a aussi les Leganés qui a pris un point à Butal qui est contre le Betis. Il aurait pu avoir un pénalty en faveur du Lega. Il y a eu l'avare et finalement, il n'y a pas eu de pénalty. Ça a fini à 0-0.
Leganés aurait pu gagner ce match.
Oui, et alors là, Leganés, grosse interrogation. Est-ce que Braithwaite part ou pas? Parce que Braithwaite est sur les tablettes du Football Club Barcelone. Et alors là, ce n'est pas une blague. Alors après, Braithwaite, c'est un bon joueur de foot. Mais alors,
oui, personne ne renie ses qualités. On parle du Barça et on parle de tous les noms, et il y en a eu pourtant, des noms qui sont sortis dans la presse. C'est quand même celui qui semble le moins correspondre à ce dont le Barça a besoin.
Et puis il faut aussi penser à ce dont a besoin Leganés, parce que Leganés a quand même vendu El Nesyri au mercato d'hiver, et là ils pourraient perdre leur deuxième attaquant.
Donc après, ils sont toujours en position de se maintenir. Hein.
Exactement. Ils sont 19e et rien n'est fait. Donc ça, c'est quand même plutôt étrange. Mais après, tu peux pas lutter contre le Barça. Si t'es Braithwaite, c'est forcé que tu partes. Donc voilà. En plus, la Ligue a autorisé le Barça à recruter après la blessure de Dembélé, qui va durer 6 bons mois. Et il y a aussi Ángel Rodríguez du Geta, qui serait aussi dans la shortlist. Bon, on va voir. On va voir comment ça se passe. Mais pour les Ganes, en tout
on
cas.
On va voir ça dans les prochaines heures.
Les Ganes, après, ils ont peut-être un bon intérêt de le vendre, Braithwaite, parce que ça peut aussi stabiliser ton club. Même si tu descends, tu prends quand même une belle petite somme d'argent qui s'accumule avec celle d'Al-Nassr. Et ça peut aussi te conforter en étant une bonne équipe de Segunda si tu descends et avoir de bonnes infrastructures en Liga si tu arrives à te maintenir. Donc, c'est pas forcément
ah
bah
c'est
une mauvaise.
certain que ce serait une bonne opération pour les Ganes, un petit peu moins pour le Barça.
Oui,
Bah avec tout ce qui se passe au Barça actuellement,
oui.
je crois que finalement, ça passerait presque inaperçu.
Exactement, ça me ferait une petite boîte.
Après, pour revenir au match et pour revenir au Betis, par contre, le Betis a d'énormes difficultés. C'est assez étrange ce qui se passe au Betis. Il y a des matchs où on se dit « Ah, ça y est, c'est lancé ». Et après, on revient. Là, ce match contre les Ganes, ça a été vraiment compliqué. Les Ganes auraient pu gagner. Ils ont eu des occasions. Ils ont eu un pénalty qui aurait pu être sifflé. Et au Betis, on a cette impression. Alors, Alegna est arrivé. Il est titulaire du Barça. Mais on a l'impression d'un rubis qui n'arrive pas vraiment à trouver la formule.
Non, et puis ouais, je veux dire, c'est du style rubis, quoi, en fait. Il reproduit un petit peu ce qu'il avait à l'Espagnol.
Bon, oui, moi, il avait souffert en seconde partie de saison aussi.
Oui, et puis là, en plus, il a quand même un peu plus de moyens, un peu plus d'argent. Et puis, il avait aussi. Il passait après Setién aussi. Donc, il y avait un peu un jeu peut-être plus porté vers l'offensive qui, lui, est plus dans l'équilibre. C'est vrai que c'est un peu dommage. Et puis après, il y a quelque chose où il n'est pas responsable, enfin, en partie, mais c'est Borja Iglesias qui n'a pas la réussite qu'il avait.
Il y a beaucoup de mal.
Qui avait, voilà, et ça fait un peu penser à Gérard Moreno quand il est parti de l'Espagnol pour aller à Villarreal l'an dernier. Il avait beaucoup de mal, puis cette saison maintenant, il a retrouvé son jeu de l'Espagnol, Gérard Moreno. Et peut-être que pour Borja Iglesias aussi, il lui faut une saison d'adaptation, sachant que voilà, Loren Morón, je veux pas de mal, mais c'est pas un bon attaquant. Donc,
il y a un problème devant, mais pourtant, il y a un milieu vraiment. Sur le papier, il y a un milieu vraiment créatif. Même sur le papier, mais même sur la pelouse, on voit Canales et Alegna, ça fonctionne bien. On a un latéral qui appartient au Barça. Je viens d'avoir un trou de mémoire.
Oui, bah moi aussi. Oui, Emerson.
Emerson, voilà, qui fait une très grosse saison. On a pourtant des choses qui fonctionnent bien, mais on a l'impression que dans les 20-25 derniers mètres, ça pêche totalement. Alors, les attaquants devant ont du mal à garder le ballon. On a une équipe pourtant au milieu qui presse beaucoup, qui récupère beaucoup de ballons, mais on a l'impression qu'ils ne savent pas quoi en faire et c'est assez étrange pour une équipe qui a autant de talent.
Sur les attaquants, je vais te dire quelque chose d'assez révélateur parce que Beansport a la riche idée de proposer les matchs en version originale. Et donc le match hier était donc en espagnol. Et donc Borja Iglesias touche le ballon, mais il y a la moitié de terrain sur le côté gauche. Et le commentateur dit un truc du genre les supporters devraient le fêter comme un but, il a enfin touché le ballon.
Oui, c'est un peu ça.
Donc,
il prend un carton rouge d'ailleurs à la fin.
Oui, mais voilà, ça traduit.
C'est pas sa saison. Oui.
Voilà, ça traduit quelques difficultés d'adaptation. Et puis bon, hier, il n'avait pas fait Fekir non plus. Donc voilà, alors qu'au match aller où j'y étais, au Villa Marine, Fekir avait marqué. Ça m'avait refait ma soirée. J'étais trop content. Bref.
Oui, Fekir a manqué, faut le dire quand même.
Surtout vu le niveau qu'il avait affiché contre le Barça la semaine d'avant. Et enfin, pour terminer sur le bas de tableau, Mallorca a battu Alavés à Soymoch grâce au Colombien Cucho Hernández. Alors, si vous voulez en savoir plus, j'avais écrit un papier sur lui quand il était à Huesca il y a 2 saisons. Donc, à l'époque où il faisait. Il avait d'ailleurs mis au moins un doublé au mini estadi contre le Barça B, si je me rappelle bien. C'était en novembre. Novembre 2017, ouais, c'est ça. Je me rappelle parce qu'en fait, le lendemain, il y avait Italie-Suède et l'Italie avait perdu. Et, Et donc, ouais, le coach qui est décisif au meilleur des moments, et Mallorca qui arrive à battre Valence, qui après peut un peu perdre le fil et perdre des points bêtement, mais là, ce sont trois points très importants contre l'équipe d'Assad Galitano. Est-ce que Alavés pourrait être un peu menacé encore? Je trouve qu'il y a beaucoup d'équipes qui ne sont pas à l'abri, y compris le Betis, d'ailleurs. Je me demande, ça, il y a quand même de l'écart, hein. Quand même pas, je suis alarmiste un petit peu pour le Betis, mais c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de points d'écart. Mais on a du mal à.
On a surtout l'impression que les équipes de bas de tableau finalement sont plus en forme que celles. L'Espagnol est en forme, les Ganes, même si c'est pas.
Bon, survie.
C'est pas du football champagne, on va le dire ça comme ça, mais voilà, ça survit. Le Celta. Même si ça a fait qu'un nul ce week-end, ça a gagné la semaine dernière un petit peu de façon miraculeuse, mais ça a gagné quand même, ça a pris 4 points de match. Donc on a l'impression que ces équipes-là arrivent à... Alors que le Betis a du mal, Alavés a un peu plus de mal. À voir comment ça va se dérouler dans les prochaines semaines.
Oui, parce que Mallorca a quand même perdu ses trois derniers matchs. Et le Celta a perdu qu'une fois sur ses 5 derniers matchs. Donc,
ils font beaucoup de matchs nuls, en fait, c'est ça le problème.
C'est la grande théorie, pas Corré, mais est-ce qu'ils voulaient absolument jouer l'offensive? Parce que si on fait que des matchs nuls, on est sûr de descendre. Donc ça arrive souvent que les équipes qui font le plus de...
Après, le match nul contre le Real a une autre saveur, bien sûr.
Ah, là, c'est quand même... tu te dis que tu repars... t'es quand même content de repartir avec un point du Bernabéu, ouais. Où c'est pas tout le monde qui parvient, mais... Valladolid, c'est 26 points, c'est pas sauvé. Déport à la veste, 27. Bon, je pense que Levante, Betis, c'est réglé, mais il y a quand même de la 14e à la 20e place, c'est encore loin d'être fait. Donc, il va falloir suivre ça avec beaucoup d'intérêt, parce que c'est vrai que l'Espagnol a 19 points. Et moi, vu la dynamique, l'Espagnol, c'est pas ce que je mettrais dans la charrette. Donc. Donc à voir, et puis bon, Pito Abelardo, lui aussi il a une carrière particulière, parce qu'il aurait quand même pu succéder à Luis Enrique, et finalement il se retrouve avec la lanterne rouge de Liga, donc c'est vraiment le spécialiste des causes espérées. Alors, quand on sait ce qu'il a réalisé avec Alavés, on se dit que tout est possible. 4 victoires en 5 matchs de Liga, une élimination en quart de finale de la Copa del Rey, sans être parfait, le premier bilan comptable de Quique Setién sur le banc du Barça est globalement satisfaisant, surtout après la victoire de samedi contre Getafe, 3e. Avec le match nul du Real Madrid contre le Celta, les Blaugrana ne sont qu'à une seule unité des Merengue, mais en termes de jeu Tressi, quelles évolutions sont notables par rapport au style Valverde?
Alors, il y a beaucoup d'évolutions depuis Valverde. C'est assez difficile, honnêtement, de jauger au bout d'un mois le travail que fait Setién. Déjà parce que le club vit une période assez sombre globalement. On n'est pas que sur des problèmes sur le terrain. Ce sont des problèmes partout, dans les coulisses, dans les équipes inférieures. C'est vraiment un problème global. Donc c'est assez difficile à ce niveau-là de juger Setién. C'est assez difficile aussi parce qu'il a un effectif extrêmement court. Il est obligé de faire le nombre à chaque fois avec des joueurs du Barça B, qui eux-mêmes sont obligés de faire le nombre avec des joueurs des juvéniles. C'est assez compliqué globalement. Mais en tout cas, on a un Setién qui essaye, qui tente. Il a commencé en changeant le système. Il nous a offert un 3-4-3 qu'il a changé. Finalement, par la suite, il est revenu au 4-3-3. Ce week-end, on a un Barça qui a battu Getafe. Alors, beaucoup ont dit que c'était le pire match de Setién depuis son arrivée. Il y avait eu également un match très difficile contre Valence, tu t'en souviens, je suppose.
Exactement.
Mais c'est vrai que ce match a été très compliqué, mais c'est aussi le premier gros adversaire, sans vouloir manquer de respect à Valence, mais Valence... Est dans une situation autre que celle de Getafe. Getafe a quand même des bases plus solides, je pense, que Valence actuellement. Getafe était vraiment le premier gros adversaire. On parle d'une équipe qui a peut-être l'un des meilleurs pressings d'Europe. C'est l'une des choses que l'équipe de Valverde avait du mal à gérer. L'équipe de Valverde arrivait souvent à être vraiment prise dans l'étau, avait du mal à ressortir. On a vu que l'équipe de Sétienne a réussi, en tout cas dans les 30 dernières minutes, j'exagère peut-être un petit peu, peut-être plus les 20-25 dernières minutes de la première mi-temps, à ressortir et à reprendre le contrôle du jeu face à Rétafé, ce qui est assez rare face à une telle équipe. On a un Barça qui arrive à ressortir beaucoup plus facilement. On a des joueurs qui quand même ont progressé, notamment on a Semedo qui on a l'impression quand même d'un autre joueur entre le Semedo de Valverde et celui de Sétienne, même si bien sûr il y a encore beaucoup de travail à faire. Au milieu, il a tenté énormément de choses. On a vu à peu près tous les joueurs. On a vu du Rakitic, on a vu du Arturo Vidal. Là, ce week-end, c'était Arthur qui était aligné avec De Jong et Busquets. À ce niveau-là, c'est assez compliqué parce que Arthur, pour l'instant, n'offre pas toutes les garanties. On a un joueur qui, certes, ne perd jamais la balle, mais a quand même beaucoup de mal avec son jeu sans ballon. Il donne, mais il ne se déplace pas assez bien ou pas assez vite pour apporter le surnombre, à la différence d'un De Jong qui, lui, progresse sous Sétienne d'une façon assez incroyable. Et puis, on a le problème aussi également devant, voilà, avec seulement trois attaquants, Ansu Fati, Antoine Griezmann et Léo Messi. Antoine Griezmann, on le voit, a beaucoup de mal, mais son apport est quand même... On est dans un joueur que j'aime bien dire qu'il n'est pas... extrêmement important, Griezmann, mais il est quand même utile. Ses courses aident quand même beaucoup l'équipe, on l'a vu notamment face à Rétafé. Mais ça reste difficile parce que voilà, il n'y a que trois attaquants pour l'instant. On attend de savoir si le Barça va utiliser le joker médical pour prendre Angel ou Braithwaite ou un autre éventuellement, ou personne, c'est possible aussi. Donc, Sétienne doit faire avec, du coup, trois attaquants. On a vu qu'il avait mis Griezmann sur le banc face à l'Athletic, en Copa. Donc, il y a eu cette élimination aussi face à l'Athletic. Finalement, après un assez bon match du Barça, ce but en fin de match, c'est vrai, gâche un peu la fête. Mais j'ai envie de dire, tant qu'on voit une progression, c'est moins compliqué, ces défaites-là sont moins compliqué à encaisser, et ce serait quand même difficile et extrêmement dur de dire qu'on ne voit pas d'évolution sous Sétienne. On voit une évolution dans le jeu. Alors après, oui, il doit faire avec un effectif court, il doit faire avec un effectif peut-être qui n'est pas aussi vraiment compatible avec ce qu'il aimerait faire au Barça. On l'oublie un peu, mais demander à Arturo Vidal de contrôler le ballon, il a beaucoup de mal. Il apporte autant finalement qu'il dessert Arturo Vidal. C'est pas là, il aide dans une circonstance où Luis Suarez n'est pas là, où ça manque d'attaquants, et lui, avec son apport, avec ses déplacements, sa présence dans la surface, il apporte forcément quelque chose. Mais au milieu, si on enlève un De Jong par exemple, ou même un Arthur, il ne va pas apporter bien sûr la même sécurité, la même garantie. Donc il faut aussi prendre ça en compte. Sétienne, il est dans une situation... Alors je ne pense pas que tout le brouhaha qu'il y a au club le perturbe. Il a vécu des choses difficiles aussi à Las Palmas, même au Betis. Donc je pense qu'il va continuer son travail sereinement. Mais il ne faut pas oublier le contexte. Il n'a pas le même contexte favorable que Valverde. Il n'a pas non plus tout le soutien qu'a pu avoir Valverde, je parle notamment de la presse, même du public, parce qu'on a vu, on a entendu quelques sifflets au Camp Nou face à Rétafé. On n'avait pratiquement jamais entendu de sifflets sous Valverde, il faut quand même le dire. Ça a commencé au Classico. On n'avait quasiment rien entendu jusque-là, donc c'est quand même assez dur d'entendre déjà des sifflets, même si à mon avis, ils ne s'adressaient pas vraiment à Sétienne, mais plus aux joueurs. C'est quand même assez difficile, mais je pense qu'il a les épaules pour continuer en tout cas à faire progresser cette équipe.
Il y a eu un petit coup dur aussi pendant le match, c'est la blessure de Jordi Alba. Alors, question provocatrice, est-ce que c'est finalement une si mauvaise chose?
Alors déjà, il faut dire que Junior fait une très bonne entrée. On s'y attendait oui ou non, mais
Junior connaît très bien Sétienne quand même.
Oui. Il fait une très bonne entrée. Personnellement, Jordi Alba, c'est un petit peu pour moi comme Arturo Vidal. Il apporte autant de solutions qu'il apporte de... Je vais réussir à trouver les mots, je vais reprendre.
Le revers de la médaille, en fait. Là.
Oui, et sa complicité avec Messi, elle apporte beaucoup. On ne peut pas dire que c'est pas important, que cette complicité-là n'est pas importante pour le Barça. Elle a amené des tonnes de buts, des tonnes de situations. On ne va pas renier ça. Le problème, c'est que Jordi Alba manque quand même... ça manque de polyvalence dans son jeu, de solutions. Dans ses centres, il a beaucoup de difficultés en fait à trouver quelqu'un d'autre que Messi. Alors personne, on va pas. Jordi Alba est un joueur extraordinaire. Personne ne va dire le contraire. Il a fait une grande carrière. Il est encore aujourd'hui toujours la meilleure solution pour le Barça. Et Junior, avant le match de ce soir, avait beaucoup de difficultés. Avant le match contre Retafe, je veux dire, avait beaucoup de difficultés. Donc on ne va pas dire non plus que la blessure de Jordi Alba est une bonne nouvelle. C'est un petit peu la même chose que pour la blessure de Luis Suarez. Quand Luis Suarez se blesse, on a un petit peu cette impression de... on est déçu, mais on se dit que quelqu'un d'autre va pouvoir prendre la place. Le problème, c'est qu'il n'y a personne d'autre. Donc la blessure de Luis Suarez devient extrêmement préjudiciable pour le Barça. Et elle l'est parce que la présence de Luis Suarez dans la surface... n'a pas d'égal, je pense, n'a presque pas d'égal en Europe. Et son association avec Messi n'a pas d'égal non plus. Mais on est dans le cas de joueurs, finalement, et c'est là d'ailleurs que Setién va être important, c'est est-ce qu'il va réussir à un petit peu sortir ces cadres-là de leur zone de confort. Là, pour le coup, Jordi Alba, bien, il est blessé pour quelques semaines. On va voir, il connaît très bien Junior, comme tu l'as dit, on va voir ce qu'il va réussir à faire avec Junior, qui, je pense, a une carte à jouer, réellement.
Je voudrais parler aussi de la défense centrale, parce que c'est Umtiti qui est revenu un petit peu dans les bonnes grâces avec l'arrivée de Setién. Alors, l'anglais a été exclu contre le Betis. Umtiti, d'ailleurs, il a joué. C'est lui qui a l'air de prendre la place de l'anglais. Alors, il n'avait pas fait un très bon match précédemment. Là, il a été plutôt bon. Oui. Contre le Geta, même s'il a été sérieusement bougé par Alanium sur le but refusé. Est-ce que pour lui, et aussi par la force des choses pour l'équipe de France, c'est une nouvelle à suivre avec encore plus d'acuité?
C'est un débat. Alors en fait, Umtiti a commencé à prendre la place de l'anglais au tout début de Setién, quand le Barça joue en 3-4-3. Après, quand Setién est revenu à 4 derrière, il a remis Clément Langlais. Clément Langlais qui a fait aussi de très bons matchs. C'est contre le Betis, je crois, contre le Betis avant d'être exclu. Il fait un match excellent, Clément Langlais. C'est deux joueurs qui finalement apportent beaucoup de choses, mais il semblerait que Setién ait une préférence pour Umtiti. Peut-être aussi par rapport à la complicité ou la complémentarité plutôt peut-être avec Gérard Piqué, parce que Gérard Piqué semble l'élément indéboulonnable. Pour le coup, il ne fait pas une saison aussi excellente que celle de la saison dernière, mais il est quand même toujours présent et il est toujours le meilleur défenseur central du Barça actuellement. Je pense que dans la complicité avec Gérard Piqué et dans ce que veut Setién dans la complicité entre les deux joueurs, je pense que Umtiti tient la corde pour l'instant, mais il y a quand même des choses inquiétantes du côté de Samuel Umtiti. On a l'impression qu'il a quand même du mal à tenir sur la durée sur 90 minutes. Il a l'air d'avoir mal au genou, il a l'air d'avoir fini des matchs avec des douleurs. À savoir si du point de vue physique, d'ailleurs c'est pas le seul. Il va réussir à tenir le rythme de Setién, parce que Setién demande quand même beaucoup d'efforts à ses joueurs. On est loin de ce que demandait Valverde, même en termes d'entraînement. C'est pour ça que quand on dit est-ce que Setién a apporté beaucoup de choses, est-ce que ce Barça a évolué sous Setién, il n'y a pas que ce qu'on voit sur le terrain. Il y a les entraînements, il y a tout ce qu'il y a autour de ses relations avec les cadres, avec un vestiaire qui aimait beaucoup Valverde, en tout cas pour ce qui est des cadres. Il y a tout ça à prendre en ligne de compte. Je vois beaucoup de gens qui sont un petit peu énervés du fait que Rakitic, par exemple, soit toujours présent, en tout cas, même s'il n'est pas titulaire, il entre en jeu. Mais c'est compliqué, Setién vient d'arriver. se mettre un cadre comme Rakitic déjà à dos, alors qu'il essaye d'avoir la confiance de son vestiaire, essayer de leur faire comprendre que son projet est viable et qu'aussi, avec son projet à lui, ces joueurs-là vont pouvoir remporter des titres. Leur expliquer aussi qu'il faut plus s'entraîner, il faut plus faire d'efforts. Donc tout ça, il faut aussi le prendre en ligne de compte. Et pour ce qui est de la défense, je pense que il va falloir prendre en compte le physique de Umtiti pour savoir comment ça va se passer, et même pour l'équipe de France.
Il y a une interrogation. Je t'ai posé la question sur la défense, parce que justement, l'équipe, depuis que Setién est arrivé, alors c'est pas concomitant à l'arrivée de Setién, mais elle prend beaucoup de buts. Toute compétition confondue, il n'y a que deux matchs où l'équipe n'a pas pris de but. C'est contre le premier match contre Granada, le match au Camp Nou qui a fait 1-0. Et le match en Coupe du Roi qui a fait 5-0 contre Leganés. Tout le reste du temps, même contre Ibiza, le Barça a pris au moins un but. Ça fait, en moyenne, c'est 8 buts en 8 matchs, donc c'est un but par match. Ça, quand on va arriver en Champions League, ça, dès les huitièmes de finale, ça risque de piquer, parce qu'il ne faut absolument pas prendre de but à l'extérieur, à domicile, pardon, enfin à l'extérieur aussi, tu me diras, mais ça va poser problème, surtout si tu perds un élément comme Jordi Alba, qui quand même est rompu aux joutes de Champions par rapport à Junior Firpo. Ça peut, puis en plus t'as Semedo qui est quand même très très offensif comme joueur, Piqué qui des fois peut avoir les fils qui se touchent. Donc ça va être problématique en Champions. On en reparlera dans un prochain podcast la semaine prochaine, oui. Spécial Champions sur le Barça. Mais à long terme, est-ce que ça peut tenir ?
Après, comme tu le disais, c'est pas une constante de sous Setién. Hein. C'était déjà le cas sous Valverde. C'est le Barça encaisse beaucoup de buts depuis le début de saison. Finalement, c'est quelque chose sur lequel il doit travailler. Après, je sais pas vraiment si c'est vraiment la résultante d'une défense qui souffre, parce que c'est pas vraiment le cas finalement, enfin en tout cas pas sur tous les matchs. C'est surtout une équipe, on l'a vu par exemple contre Valence, c'est un Barça qui perd des ballons dangereux et qui se fait prendre finalement en contre. C'est une constante chez le Barça, ça c'est pas nouveau. Ce qu'il faut améliorer de mon point de vue, c'est le déchet technique, beaucoup trop de déchets techniques pour une équipe comme le Barça qui doit garder le ballon. On a vu le retour un petit peu de la possession défensive qu'on avait totalement, entièrement perdu sous Valverde, de ce Barça qui tient le ballon pour se protéger défensivement. Je pense que c'est sur ça que Setién travaille. On l'a vu un petit peu contre Rétafé. Ils ont tenté de le faire, ils ont eu beaucoup de mal. Après, on parle, je le redis, d'une équipe de Rétafé qui est très forte pour presser. Mais je pense que le but, c'est d'en venir à ça, à un Barça qui garde le ballon défensivement pour essayer de se protéger. Et on a vu qu'actuellement, c'est pas gagné, parce qu'il y a un déchet technique assez incroyable dans une équipe comme le Barça, avec des pertes de balles beaucoup trop dangereuses, même au milieu de terrain, même de joueurs qui sont des techniciens, voilà, même Arthur, même Busquets. Mais je pense qu'ils avaient tellement perdu l'habitude, on a un peu l'impression d'un Barça qui avait perdu les bases. C'est assez voyant, d'un Barça qui a perdu les bases. Et Setién doit reprendre un petit peu, j'ai l'impression, tout le travail du début. Alors ça va revenir plus rapidement parce que ce sont des joueurs qui ont connu et qui savent comment faire. Mais on a l'impression d'un Barça qui doit reprendre les bases. Et aussi, Setién doit aussi faire, j'ai oublié de le préciser tout à l'heure, avec un Messi qui a beaucoup de difficultés face au but, ce qui était assez rare sous Valverde. Sous Valverde, on avait une attaque qui était presque létale, clinique. Il suffisait de trois occasions. C'était trois occasions, trois buts. Sous Valverde, c'était cette impression d'un Barça qui va peut-être se créer 3-4 occasions franches dans le match uniquement, mais qui va mettre les buts. Alors, il y avait aussi Suarez à cette époque-là. Mais là, on a un Messi qui est extraordinaire, qui est toujours extraordinaire, qui fait des passes décisives d'un autre monde. Mais on a un Messi qui a un peu du mal face au but, qui marque peu. Et ce sont des buts, on a envie de dire, presque gratuits, que n'a pas Setién. Peut-être qu'à partir de ce moment-là, avec un Barça qui marquerait plus de buts rapidement, on aurait un Barça qui contrôlerait plus le ballon, plus le jeu, et qui subirait moins d'occasions de but.
Dernière question, c'est la question qui tue, c'est la question uchronique, je dirais même. Est-ce que tu penses que le Barça gagne si le but de Niom est validé?
Ben oui, mais le but n'était pas valable.
C'est pour ça que je dis que c'est une question uchronique. C'est pour ça que je dis que c'est une question uchronique. Est-ce que tu penses que si le Reta mène 1-0, est-ce que tu penses que le Barça aurait eu les moyens d'aller gagner le match?
Je pense que oui.
Moi, je pense que non. Mais
je doute que si tu poses la question, c'est parce que tu penses que non.
Non, enfin. Parce qu'il y a à un moment, il y a Cucurella qui fait une passe de plus de 50 mètres, un peu manière quarterback, foot américain, qui transperce complètement la défense. Si jamais il y a 1-0 et qu'ils se jettent un petit peu à l'attaque, derrière, ils vont se faire plumer, ils vont prendre des contres de partout. Je ne sais pas, il aurait vraiment fallu égaliser tôt, en tout cas avant la mi-temps, parce que je pense que ça aurait été très très compliqué pour eux ensuite, vu l'intensité du pressing des joueurs de Bordalas.
Bon, on s'était dit un petit peu la même chose contre le Betis, même si je ne compare pas le Betis et Retafe, ça n'a rien à voir. Mais on avait aussi un petit peu peur de ce Barça qui encaisse le premier but contre le Betis, et finalement ils ont réussi à s'en relever. Alors bien sûr, ça n'a pas de comparaison avec Retafe, qui aurait... Qui a eu beaucoup d'occasions, hein, Retafe. Ils auraient pu revenir même à 2-2, voire à 3-2 même. Mais le Barça a eu des occasions aussi, et c'est pour ça que je dis qu'il y a quand même un problème, enfin, il y a une différence notable par rapport à Valverde. C'est voilà, c'est ce Barça. Griezmann a loupé des grosses occasions. Une grosse occasion, c'est pas la première fois, ça se reproduit depuis plusieurs matchs. Messi également, dans des positions où Messi ne rate jamais. Ça aussi, ça change les choses et ça ne va pas rester comme ça. Messi ne va pas rester très longtemps avec ces difficultés-là. Qu'est-ce qui va se produire quand il redeviendra le Messi qu'il est devant les buts? En principe, Messi emmène avec lui toute son équipe et Setién va continuer à travailler. Retafe, c'était un gros morceau, je le redis. Pour moi, c'était l'un des plus gros morceaux de cette deuxième partie de saison, en tout cas en championnat, hein, bien sûr. Et le fait de s'en être sorti finalement, c'est plutôt un bon signe. C'est plutôt un bon signe.
Nous arrivons au terme de ce Furia Liga podcast. Merci Tracy Rodrigo.
Merci à toi.
Merci à Thomas Galarag à la technique. Ce podcast sera disponible sur notre site furialiga.fr, sur les différentes plateformes traditionnelles ainsi que sur Patreon où vous, lecteurs et auditeurs, pouvez nous donner un petit coup de pouce pour le développement du site avec de beaux programmes à venir pour vous récompenser de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Furia Liga podcast. Allez, hasta luego, ciao, adeo.